Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Et oui, des militants pro-démocratie du mouvement des parapluies rejugés en appel et de nouvelles manifestations contre Pékin. C'est le paysage politique à Hong Kong ces dernières semaines. Bonjour Jean-Pierre Cabestan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, directeur du département de sciences politiques de l'Université Baptiste de Hong Kong, chercheur au CNRS et auteur dernièrement de la politique internationale de la Chine aux presses de Sciences Po. En tout cas, votre premier livre était sur Deng Xiaoping qui avait énoncé le célèbre « Un pays, deux systèmes » au sujet précisément de Hong Kong, rétrocédé à la Chine en 1997. Jusqu'ici, comme Macao, Hong Kong est une région administrative spéciale jusqu'en 2047, mais la transition crée des frictions. À l'époque, en 2014, les manifestants réclamaient le suffrage universel pour élire le chef de l'exécutif. Cette fois, ils dénoncent l'application de la loi chinoise sur une partie du territoire de Hong Kong, la gare centrale en l'occurrence, officiellement pour des raisons pratiques, mais après déjà des élections verrouillées en 2016, les ingérences de la Chine continentale sur Hong Kong se multiplient à petits pas ces dernières années et la méfiance des 700 300 000 habitants augmente aussi dans cette zone économique du Delta de la rivière des Perles, de plus en plus stratégique pour Pékin, on le verra. Alors après 20 ans de rétrocession contrôlée, la Chine veut-elle reprendre la main sur Hong Kong ? Jean-Pierre Cabestan, pour commencer, votre lecture des événements qu'il y a en ce moment depuis fin décembre, ces manifestations concernant la gare de Pékin et son statut, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Alors, je crois que ça traduit une crainte des Hongkongais de voir leur autonomie peut-être s'effriter. 20 ans après le retour de Hong Kong à la Chine, finalement, il n'est pas étonnant qu'un régime de parti unique comme le régime communiste à Pékin cherche à raccourcir la laisse qui relie le gouvernement central à Hong Kong. Le régime que vous avez évoqué, un pays de système, c'est pas un régime d'indépendance, c'est un régime d'autonomie, mais sous la direction du parti communiste. Et c'est une autonomie, je dirais, telle que le comprend Pékin. Autonomie économique, autonomie financière, autonomie aussi pour ce qui concerne le système administratif, mais c'est Pékin qui décide la manière dont le régime politique sera maintenu et c'est les libertés qu'il souhaitera maintenir à Hong Kong.
Alors donc, ça c'est pour la question du régime concernant l'affaire de la gare. Donc Pékin dit qu'il veut installer un bureau d'immigration donc dans cette gare centrale avec des policiers chinois qui officieraient selon la loi chinoise. C'est ça qui bloque. Est-ce qu'il y a un intérêt réel de Pékin à contrôler l'immigration venant de Hong Kong?
Alors, l'argument de Pékin et du gouvernement de Hong Kong, c'est évidemment la commodité, c'est-à-dire que pour une gare de train à grande vitesse, qu'il y ait un seul point de contrôle pour les passeports, c'est la logique, et c'est un système utilisé par beaucoup de pays, par la France avec l'Angleterre, par les États-Unis avec le Canada. Le problème, c'est le manque de confiance, et c'est ça que ce mouvement traduit en ce moment d'opposition à la colocation. C'est une inquiétude par rapport à des empiétements successifs de Pékin qui viennent peu à peu réduire l'autonomie de Hong Kong. Donc, ce que craignent les Hongkongais, c'est que cette colocation, c'est-à-dire que donner l'autorisation à des officiers d'immigration chinois de travailler à Hong Kong et de constituer dans la gare de Hong Kong une zone d'extraterritorialité, c'est vu par beaucoup de Hongkongais comme un précédent. Et donc comme un précédent qui pourrait être suivi par d'autres cas et qui viendrait à nouveau réduire l'autonomie de Hong Kong et surtout petit à petit rendre la présence continentale, notamment des officiers du gouvernement continental, beaucoup plus visible à Hong Kong et beaucoup plus prégnante.
Un précédent souligné aussi par le South China Morning Post. Sur la forme, ces manifestations, elles se passent devant Civic Square, donc le siège du gouvernement. On y voit aussi Joshua Wong, donc l'ancien étudiant qui est en ce moment poursuivi, ou en tout cas en procès, en appel. Est-ce qu'il faut y voir une poursuite de 2014, sachant qu'il y a eu quelques autres manifestations à la fin de l'année aussi, à des moments cruciaux?
Alors, le conflit de 2014, donc le mouvement des parapluies tournait autour de la réforme politique, une réforme politique qui a été bloquée par Pékin, qui voulait continuer de maintenir le choix en fait du chef de l'exécutif. et de laisser les Hongkongais choisir, voter pour un des candidats acceptables par Pékin. C'était ça les règles du jeu que voulait imposer Pékin et que Pékin, d'une certaine manière, imposait en bloquant tout autre mode d'élection du chef de l'exécutif. Donc, pour ce qui concerne le système politique, à la fois le gouvernement mais aussi le Parlement, Pékin a bloqué toute évolution vers une plus grande démocratisation des institutions du territoire. Et ça, c'est un petit peu, bon, c'est l'origine du mouvement des parapluies, et c'est un peu l'arrière-plan, si vous voulez, de l'inquiétude actuelle des Hongkongais face à ce projet de gare où des officiers d'immigration chinois pourraient travailler. Donc, il y a une ambiance qui est plus difficile. Il y a ce procès que vous évoquez. Bon, aujourd'hui, la Cour de dernier appel a repoussé toute décision, ce qui voudrait dire probablement qu'il y a un désaccord à la fois par rapport à la décision prise en appel de mettre ces trois militants, dont Joshua Wang, en prison. Donc ils sont toujours libérés sous caution, liberté sous caution, jusqu'à ce que la Cour dernier appel prenne son jugement d'ici environ, je pense, un mois. Il y a aussi peut-être une division parmi les juges. Il y a 5 juges qui vont devoir se prononcer et chaque vote compte. Et on verra quel sera le résultat. On peut pas préjuger non du résultat de cette décision, mais ce qu'on peut penser, c'est qu'ils sont pas forcément en accord avec la décision prise en appel.
C'est ça. Et avec ces étudiants, en tout cas, au départ condamnés à des travaux d'intérêt généraux, aujourd'hui, voilà, qui risquent quelques mois de prison. Et en même temps, aussi ces dernières années, un paysage politique qui s'est quand même diversifié, justement à partir de cette révolution des parapluies, avec la naissance d'un ensemble de partis qu'on dit localistes, alors certains clairement séparatistes, d'autres plus patrimoniaux, on pourrait dire. Est-ce que ça a eu une influence sur la vie politique à Hong Kong, finalement, ce mouvement des parapluies ?
Oui, ça a eu plusieurs types d'influences. La première, ça a été de diviser le camp démocrate, donc finalement, d'une certaine manière, de l'affaiblir. Puisqu'on a une espèce de fragmentation là qui se produit entre d'un côté les partisans traditionnels d'une plus grande démocratisation de la vie politique et puis ces mouvements identitaires localistes qui surtout ont un discours assez critique à l'égard de Pékin et qui veut maintenir Hong Kong comme une entité politique sinon indépendante, en tout cas très très largement différente de la Chine.
Donc, et en tout cas,
ce sont des jeunes qui ne s'identifient plus à la Chine, si vous voulez. Mmh. C'est ça ce qui inquiète Pékin et donc incite Pékin à renforcer sa main sur Hong Kong et donc à réduire plus encore les libertés qui existaient au début de la rétrocession à Hong Kong.
Mmh, parce qu'on a l'impression de voir Pékin relativement tolérante justement vis-à-vis de ce multipartisme, je le disais, parfois clairement opposé.
Alors le problème, c'est que depuis l'été 2016, Pékin a commencé à demander aux autorités de Hong Kong d'interdire aux candidats indépendantistes de se présenter aux élections. Donc là, c'est une entorse évidente à la vie démocratique, puisque certains candidats, pour délit de faciès, si vous voulez, ou délit d'opinion, ne sont plus autorisés à se présenter aux élections locales. Et donc, et là, comme il y aura des élections partielles qui vont être organisées, le même problème va se poser très, très rapidement.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu six interdictions d'élections, je crois, pour 6 candidats en tout cas.
Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un tournant important dans la vie politique de Hong Kong, puisque jusqu'à l'été 2016, tout citoyen ou, disons, électeur à Hong Kong, donc, y compris des ressortissants étrangers, pouvait se présenter aux élections locales. Mmh. Et donc, c'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez d'autres entorses aux libertés, comme le fait que vous avez de moins en moins de librairies qui vendent des livres critiques à l'égard de la Chine, parce que Pékin a acheté toutes les librairies et que la distribution des livres est de plus en plus contrôlée par des groupes favorables à la Chine. Et donc, c'est très difficile maintenant de retrouver des livres vraiment critiques à l'égard de la Chine sur le plan politique.
Alors que Hong Kong était un haut lieu de l'édition dissidente, c'est vrai, à l'époque, il y a eu cette affaire des disparitions de libraires en 2015-2016. Quand vous parliez d'empiètement de Pékin, il y a aussi eu pas mal d'interdictions de visas pour des personnalités taïwanaises, par exemple, ou représentantes des droits de l'homme. Est-ce qu'il faudrait parler d'une volonté de reprise en main politique réellement à cet horizon 2047, donc cessation du statut spécial?
Et alors, c'est pas nouveau, mais ces interdictions d'accès au territoire de Hong Kong se sont multipliées. Et Carrie Lam, le chef de l'exécutif, a franchement admis que c'était pas de son ressort, que c'était de la compétence de Pékin d'établir des listes noires qui interdit l'accès au territoire de Hong Kong à un certain nombre de personnes qui déplaisent à Pékin, que ce soit des militants pro-tibétains, des Taïwanais de tendance indépendantiste ou des militants des droits de l'homme qui s'inquiètent de la situation politique politique à Hong Kong, et ça a été le cas justement qui a fait beaucoup de vagues en Grande-Bretagne, de Benedict Rogers, qui est un membre du parti conservateur britannique, mais aussi le responsable d'une ONG chargée des droits de l'homme, qui est venu à Hong Kong faire des enquêtes sur la situation. Et donc ce sont des interdictions qui ont se multiplié, avec une qui a fait aussi marquer la Grande-Bretagne, puisque une délégation parlementaire au moment du mouvement des parapluies s'est vu interdire l'accès à Hong Kong également. Donc, et ça, on voit que les pays occidentaux n'ont pris aucune mesure de rétorsion par rapport à ce genre de pratique, ce qui est un aveu d'impuissance supplémentaire, notamment la Grande-Bretagne, par rapport à son ancienne colonie.
Et alors, il nous reste peu de temps, mais si on essaye de comprendre l'attitude profonde, disons, de Pékin, est-ce que, selon vous, c'est reprise en main politique ou bien réinsertion économique, puisqu'on a vu aussi Xi Jinping s'intéresser de plus en plus à cette zone du delta de la rivière des Perles, où on trouve Hong Kong, Macao, Shenzhen, Canton, tous reliés de plus en plus cette année-là.
Alors, ce qui est vrai, c'est qu'Hong Kong pèse beaucoup moins dans l'économie chinoise. Shenzhen va devenir sur le plan économique plus important que Hong Kong comme économie, Canton également. La réinsertion de Hong Kong dans la région de la rivière des Perles est de plus en plus évidente. Mais cela étant, la frontière va rester. Et moi, mon point de vue est qu'après 47, Pékin sera finalement assez satisfait de maintenir cette formule un pays de système. Et un pays de système qui sera neutralisé, où les dissidents politiques ont été, sinon complètement éliminés, mais en tout cas très largement marginalisé. Et donc à Hong Kong qui ne menacera plus Pékin de déstabilisation.
Et en tout cas en 2047, c'est notre génération qui sera au pouvoir. C'est pour cela que notre génération doit entrer en politique, disait Joshua Wong, donc ce leader étudiant qui risque une condamnation. On suivra ça. Merci beaucoup d'avoir été au téléphone avec nous, en tout cas Jean-Pierre Cabestan, directeur du département de sciences politiques de l'Université Baptiste de Hong Kong, chercheur CNRS, auteur de la politique internationale de la Chine. Retrouvez les vidéos des événements actuels, les déclarations à ne pas manquer sélectionnées par Claude Armand de Castio, comme d'habitude sur la page et le fil Twitter des enjeux internationaux. Podcasté toujours et encore, demain Commerce mondial toujours, à quelques jours du forum de Davos lundi, après une défense et illustration du libre-échange par Xi Jinping en 2017, qui peut encore sauver le multilatéralisme.